Bonsoir à tous. À la une ce soir, l'enfer des migrants en Libye qui tentent de gagner l'Europe mais plongent en Méditerranée quand ils voient les gardes-côtes libyens qui connaissent la faim, les tortures et même les bombardements. Hier soir, sur un camp à Tripoli, au moins 44 morts, plus de 130 blessés. Peut-être un crime de guerre, dit l'ONU qui veut une enquête indépendante. La guerre du maréchal Haftar qui veut le pouvoir n'arrange rien. On tâchera d'y voir clair. L'Italien David Sassoli pour compléter le casting européen, l'ancien journaliste de télévision élu président du Parlement. Question à Berlin sur Mme von der Leyen et Lagarde à la Commission et à la BCE. Et vous y revenez au téléphone sonne. Bonsoir Claire Servageant.
Bonsoir Sébastien Paour. Ben effectivement, si vous avez des questions sur ce casting européen, ben y a une émission à ne pas rater. C'est le téléphone sonne juste après. Puis il y a un numéro à retenir.
Le 01
45 24 7000.
Merci Claire. À tout à l'heure dans 20 minutes. Au sommaire également ce soir, peut-être des retards dans les résultats du bac à cause des enseignants qui protestent contre la réforme du lycée. L'équipe Majoubi-Villani pour contrer Griveaux dans la course à la mairie de Paris. Et puis deux sœurs britanniques très en pointe sur les séries. Les migrants rêvent d'en partir vers l'Europe via la Méditerranée, mais beaucoup de ceux qui échouent y reviennent. Alors que les conflits tout autour ne cessent d'apporter de nouveaux réfugiés, la Libye est donc au centre de tous les regards ce soir et le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence après le raid aérien de la nuit dernière contre un centre pour migrants de la banlieue de Tripoli. Raid des forces du maréchal Haftar qui cherche depuis début avril à reprendre la capitale au gouvernement reconnu par l'ONU. Il y a au moins 44 morts donc et plus de 130 blessés. Bonsoir Christian Chénaume.
Bonsoir.
Les Nations Unies parlent de possibles crimes de guerre dans ce qui devrait être un sanctuaire pour les migrants.
Oui Sébastien, il n'a plus aucun lieu sécurisé pour les migrants. Ils se retrouvent pris au piège. D'abord en mer, plus difficile d'accès. La France vient d'ailleurs de vendre 6 vedettes rapides aux gardes-côtes libyens pour empêcher les migrants de rejoindre l'Europe. Et puis à terre, à Tripoli, ils sont regroupés dans des centres qui s'apparentent plus à des prisons qu'à des refuges, explique Bénédicte Jeannereau de Human Rights Watch.
Les personnes migrantes en Libye sont détenues de manière arbitraire dans des conditions absolument effroyables, qui sont marquées par une surpopulation extrême, par l'insalubrité, par le manque de nourriture, par le manque de soins médicaux, parfois même la torture, donc toute forme de coups. On a même collecté des témoignages de chocs électriques ou de travaux forcés.
Les migrants sont en fait utilisés par des employeurs qui cherchent une manœuvre corvéable à merci. Bref, des conditions proches de l'esclavage.
Alors sur le raid d'hier, l'ONU parle d'un carnage. L'Union européenne condamne une attaque horrible. Oblige-t-il ce raid de la France à changer son fusil d'épaule vis-à-vis de Tripoli?
Écoutez, la posture de la France est un peu schizophrénique puisqu'elle a reconnu le Premier ministre Fayez Sarraj, mais soutient aussi dans le même temps le maréchal Haftar dans son combat contre les djihadistes. Malgré cette tragédie, il est donc difficile pour Paris de lâcher complètement le fougueux maréchal qui reste un acteur clé à toute solution à la crise libyenne.
Et toujours à propos des migrants, merci Christian Chénault, la capitaine du Sea-Watch libérée hier soir se cache désormais. Carola Racqueteux a reçu des menaces après son accostage à Lampedusa avec 40 réfugiés à bord. Elle devrait être expulsée vers l'Allemagne. Berlin, nous y serons dans un instant, mais d'abord direction Strasbourg, où le nouveau président du Parlement européen est toujours un Italien, le sociodémocrate David Sassoli, élu au deuxième tour de scrutin pour 2 ans et demi, après le mandat d'Antonio Tajani. Sassoli, Mathilde Imberti, ancien journaliste de télévision, devenu eurodéputé il y a 10 ans.
Un président italien pour le nouveau Parlement, mais qui ne sera certainement pas un allié du gouvernement populiste de la péninsule. David Sassoli est un pilier du Parti démocrate à Strasbourg et premier parti d'opposition à la Ligue. D'ailleurs, dans les rangs de Matteo Salvini, on s'est opposé à son élection aujourd'hui. L'Italien âgé de 63 ans a lui insisté d'emblée sur l'esprit des pères fondateurs de l'Europe et sur l'immigration. Il a mis en avant le dialogue nécessaire avec les ONG. Le Parlement leur reste ouvert, assure-t-il. Un Parlement qu'il souhaite par ailleurs éco-responsable et plus transparent envers les citoyens. Le grand public européen connaît peu cet ancien journaliste. En Italie, par contre, il est le monsieur info de la première chaîne publique, Rai Uno. Il y a présenté pendant longtemps le journal du soir. Sans faire de vagues, ce n'est pas le style de ce Florentin au profil lisse, né dans une famille proche de la démocratie chrétienne, qui dit aimer le jardinage, l'histoire romaine et la musique classique. « Je suis très ennuyeux », avait-il confessé dans une interview il y a plusieurs années. Il se consacre depuis 10 ans à son mandat européen et son travail apprécié au sein du Parti socialiste européen lui a assuré progressivement les appuis suffisants suffisant pour se hisser au poste convoité de président. De Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
L'Italie qui échappe par ailleurs cette année à une procédure disciplinaire de Bruxelles pour déficit excessif, mais qui reste sous surveillance pour l'an prochain. David Sassoli, au perchoir du Parlement européen, le mercato des postes clés est donc bouclé, même s'il fait grincer quelques dents, notamment chez vous en Allemagne. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Sébastien.
Ursula von der Leyen à la tête de la Commission, ça ne plaît pas beaucoup dans les rangs de la coalition d'Angela Merkel, dont elle est ministre depuis 2005.
Et Angela Merkel savait à quoi s'attendre chez ses partenaires sociaux-démocrates au sein de cette grande coalition. Elle savait que ça ne leur plairait pas puisqu'elle leur en a parlé avant de se lancer dans ces négociations bruxelloises, à tel point qu'au moment du vote des États membres pour ou contre Ursula von der Leyen, tenez-vous bien, elle s'est abstenue. L'Allemagne n'a même pas soutenu sa candidate à la présidence de la Commission européenne alors que von der Leyen est une protégée de la chancelière allemande. Certains chez les sociaux-démocrates menacent cet après-midi une énième fois, j'ai envie de dire, de faire exploser la GroKo, la grande coalition à Berlin. Le chien aboie mais ne mordra pas, titre un quotidien allemand. Par contre, eh bien, les eurodéputés allemands du SPD, ça c'est certain, voteront contre von der Leyen dans une dizaine de jours à Strasbourg.
L'autre nom, c'est l'arrivée de Christine Lagarde à la tête de la BCE, qui ne fait pas l'unanimité non plus chez vous, Outre-Rhin. Ludovic, êtes-vous avec nous ? Alors, on a perdu la liaison avec Berlin, manifestement. Effectivement, Christine Lagarde.
Vous m'entendez?
Oui, on vous entend. On vous a même retrouvé, Ludovic Piétenu. Je disais que Christine Lagarde ne faisait pas l'unanimité chez vous non plus, hein.
Oui, l'accueil est mitigé. Elle est présentée tantôt comme une grande dame en France et dans le texte, dans les colonnes d'un hebdomadaire économique allemand, ou comme particulièrement appréciée par Angela Merkel. Elles ont à peu près le même âge et Christine Lagarde, après 8 ans au FMI, connaît bien tous les leaders européens. Mais ce qui lui est reproché, c'est d'être une avocate, pas une économiste, façon pour la presse allemande de marquer sa préférence pour l'actuel chef de la Bundesbank. Ben oui, Sébastien, les Allemands auraient bien vu l'un des leurs prendre aussi la tête de la Banque Centrale Européenne, dont le siège est à France.
Évidemment, merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin. On rappelle que tous ces noms proposés doivent encore être validés lors d'un vote à Strasbourg. Ce sera la semaine du 15 juillet et que vous y revenez au téléphone sonne à 19h20, Claire.
Avec deux eurodéputés en direct de Strasbourg et un politologue spécialiste des questions européennes ici en studio à Paris. On passe au résultat du bac. Sébastien, seront-ils tous connus vendredi comme prévu ?
Eh bien, Jean-Michel Blanquer reconnaît que ce n'est pas sûr avec le mouvement des professeurs contre la réforme du lycée qui retiennent leurs notes, ces professeurs, alors qu'ils devaient les avoir rendus aujourd'hui. Le ministère a prolongé la période de saisie jusqu'à cet après-midi, mais le bras de fer, Alexis Morel, avec les grévistes, se poursuit.
Tout dépendra en fait du niveau de mobilisation et de détermination des correcteurs encore grévistes ce soir. Le ministre affirme qu'ils sont très peu nombreux. Pourtant, Jean-Michel Blanquer hausse clairement le ton en menaçant les récalcitrants de sanctions financières très importantes, jusqu'à 15 jours de retenue salariale. Pas sûr que cela suffise à faire plier les plus déterminés. En Ile-de-France, mais aussi à Toulouse par exemple, les assemblées générales ont reconduit la grève jusqu'à demain soir et affirment que les jurys de délibération prévus ce jeudi ne pourront pas se tenir dans certains établissements. Quant aux sanctions évoquées, les profs grévistes estiment qu'elles n'ont pas de fondement juridique. Quant à l'ampleur de leur mouvement, les collectifs de correcteurs parlent d'au moins 120 000, 130 000 copies retenues. Pas de chiffre côté ministère pour l'instant. Maintenant, s'il devait y avoir report et même léger report dans la publication des résultats, se pose une question. Faut-il repousser cette publication pour tout le monde ou pour certains candidats seulement, au risque de provoquer la colère des lycéens concernés vendredi devant les listes des admis.
Oui, les résultats officiels sont censés tomber vendredi 13h au plus tard et il faut que les délais soient respectés pour la Fédération des parents de l'enseignement public. Voici la colère d'Hubert Salin, administrateur national de la PEP, joint par Maxime Deps.
On est en colère parce que on fait peser sur des élèves qui sortent du lycée, qui sont tournés vers le supérieur, des choses qui ne sont pas de leur domaine. La réforme du lycée, c'est fini pour eux, hein. Et on ne trouve pas normal que ça pèse sur ces élèves-là. Ils attendent les résultats avec impatience. Vendredi matin, il y a des élèves qui vont arriver, qui ne trouveront pas leur nom sur les listes, qui ne sauront pas s'ils ont le bac, s'ils sont en repêchage. Et là, les élèves vont peut-être le savoir pour certains uniquement la semaine prochaine. Et dès le lendemain, il faudra aller au repêchage sans qu'ils aient souvent pu se préparer. Donc, c'est vraiment inutile de laisser les élèves s'angoisser, les élèves pour qui se joue beaucoup, hein, soit un redoublement, soit un passage dans le supérieur pour un DUT ou un BTS. Et ces élèves-là ont besoin de savoir. Et les familles ont besoin aussi de prendre après des dispositions pour avoir des chambres, pour faire des inscriptions. Donc on ne peut pas laisser ça. C'est pas un combat qui concerne ces élèves-là. Après, on peut comprendre qu'un professeur fasse grève. Et s'il fait grève, il fallait pas prendre les copies. Hein, à partir du moment où ils ont pris les copies, on ne comprend pas qu'ils ne s'engagent pas à donner les notes aux élèves.
Et dans l'enquête sur les soupçons de fuite concernant les épreuves de maths, 12 lycéens sont toujours en garde à vue ce soir. Certains interpellés hier ont été libérés. 6 autres ont été arrêtés aujourd'hui, toujours à Paris et à Marseille. La politique, avec un marcheur de moins en course pour la mairie de Paris, je vous le disais en titre, Mounir Majoubi renonce et rejoint Cédric Villani. Bonsoir Karine Bécard.
Bonsoir.
L'idée c'est quoi? C'est de peser le plus possible pour contrer l'ancien porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux?
Oui, c'est à peu près ça. En fait, l'ancien ministre Mounir Majoubi n'a pas envie d'aider l'ancien ministre Benjamin Griveaux. Depuis le début, entre eux, la concurrence est vive. Donc, à une semaine du grand oral organisé par le parti de La République En Marche pour départager tous les candidats à l'investiture pour Paris, Mounir Majoubi a décidé de miser sur Cédric Villani. En réalité, en le ralliant dans la dernière ligne droite, il espère donner un petit peu plus de poids à la candidature du mathématicien, aujourd'hui devenu député de l'Essonne. Parce que, pour l'instant, Cédric Villani se défend plutôt bien, en tout cas dans les sondages. Il est donné au coude à coude avec Benjamin Griveaux, 25% tous les deux, face à Anne Hidalgo notamment, dans la dernière estimation BVA publiée à la fin du mois de juin. Autrement dit, Benjamin Griveaux ne parvient toujours pas à s'imposer naturellement. Du coup, Mounir Majoubi en profite en donnant un petit coup de pouce à Cédric Villani. Ce qui ne fait pas trembler, du moins officiellement, l'ancien porte-parole du gouvernement, mais plusieurs de ses soutiens laissaient entendre tout de même cet après-midi que pour récupérer Villani et Majoubi sur leur liste, il allait maintenant falloir leur offrir des postes assez conséquents.
La bataille de Paris se précise, merci Karine Bécard. Le Premier ministre est en Corse, première visite du chef du gouvernement sur l'île. Et au programme, évidemment, bonsoir Cyril Graziani.
Bonsoir Sébastien.
Des rendez-vous avec les leaders nationalistes et un dialogue de sourds qui continue.
Le face-à-face s'est à nouveau transformé en dos à dos, une heure et quart d'entretien. Rien de neuf déplore Gilles Simeone, ni pas d'acte 2 du quinquennat entre Paris et la Corse. Le président de l'exécutif met la pression sur Édouard Philippe.
Nous avons besoin d'entendre que, oui, depuis un demi-siècle dans cette île, il y a eu une situation, souvent malheureusement de conflit, qui puise à l'histoire, au droit et à la volonté d'un petit peuple d'être reconnu et dans son existence et dans ses droits. Ne pas prendre en compte cette dimension, c'est d'abord une forme de déni de démocratie et c'est ensuite prendre le risque cruel de l'échec.
Édouard Philippe ne rentre pas dans ce jeu, il n'a pas grand-chose à proposer aux élus nationalistes car même l'inscription de l'île dans la Constitution a été repoussée au calende grec. Non, il est venu dans un état d'esprit d'ouverture et de dialogue.
Le dialogue n'est pas une fin en soi. Il est comme certaines routes de Corse qui serpentent et qui donnent parfois un peu le vertige, avant de déboucher sur un panorama à couper le souffle.
Lyrique, le Premier ministre, sauf que pour l'instant, entre Paris et les élus insulaires, au bout de cette route, il y a juste un précipice.
Cyril Graziani, en direct de Bastia, avec Marcos Daras. Merci à tous les deux.
Le siège de Renault, perquisitionné à Boulogne-Billancourt.
Perquisition dans l'enquête sur le mariage de Carlos Ghosn en grande pompe à Versailles en 2016. L'ancien patron du constructeur est soupçonné d'avoir eu le château en échange d'une convention de mécénat entre la marque et l'établissement. Une plainte collective déposée à Nantes après la disparition de Steve, peut-être tombé dans la Loire à la fin de la fête de la musique dispersée par la police. Plainte de 85 personnes présentes ce soir-là, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui. Peine revue à la baisse en appel pour l'aide-soignant filmé en train de frapper une femme de 98 ans dans un EHPAD. C'était en février à Arcueil, en banlieue parisienne. L'homme est condamné à 3 ans de prison ferme. Il avait écopé de 5 ans ferme en première instance.
Et on passe, Sébastien, au bilan de la criminalité organisée comme chaque année par la police judiciaire.
Oui, avec une hausse des affaires de proxénétisme dans les banlieues en 2018. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Multiplié par 3 en 3 ans.
Oui, 120 affaires traitées l'année dernière contre un peu plus de 40 en 2016. Et c'est l'analyse des données des différentes enquêtes qui ont été en partie dévoilées cet après-midi et qui dressent le portrait de ces organisations criminelles dites de cités qui se sont lancées dans le proxénétisme ces dernières années et qui commencent sérieusement à se structurer, même si on ne peut pas encore parler de mafia à proprement parler, comme c'est le cas pour les filières nigérianes ou roumaines et albanaises par exemple. Jean-Marc Droguet est le patron de l'Office central de lutte contre la traite des êtres humains.
Il est évident que les groupes qui ont investi ce champ criminel commencent à s'organiser et à essayer de maximiser, de rentabiliser chaque strate de l'exploitation. Je m'explique. Vous avez aujourd'hui, dans ces groupes criminels, des gens spécialisés pour trouver les appartements, les lieux de prostitution. Vous avez des gens qui ont en charge la recherche du client, qui passe éventuellement par des sites internet, mais aussi par les messageries de rencontre que vous connaissez.
Jean-Marc Droguet a rappelé cet après-midi que dans toutes les affaires traitées l'année dernière par la police judiciaire en France, 47% des prostituées identifiées victimes des réseaux criminels sont des jeunes femmes mineures. Dernier chiffre, 1185 clients ont été verbalisés.
Emmanuel Leclerc, c'est une ligne empruntée par des TGV entre la France et l'Italie, par des TER régionaux et de nombreux trains de fret entre les deux pays. La ligne TGV Paris-Milan est coupée pour plusieurs semaines. Les voies sont sous 1,50 m de boue entre Saint-Michel-de-Maurienne et Modane à la frontière à cause des orages d'hier. Il dit que la lumière est une constante dans sa vie. Le franco-norvégien Thomas Ebesen, c'est cela? C'est comme ça qu'on dit, Daniel Messager?
Oui, oui, je connais très bien le norvégien, c'est tout à fait ça.
Il reçoit, ce monsieur Ebesen, la médaille d'or du CNRS. C'est une des plus hautes distinctions scientifiques françaises. On va tenter avec vous, Daniel, de nous éclairer tous sur son travail. Le chercheur est distingué pour ses découvertes dans le domaine des nanosciences.
Alors, ses travaux en nanosciences couvrent de multiples domaines: optique, chimie moléculaire, science des métaux carbonés. Et cet éclectisme n'est pas étonnant, car né en Norvège, donc, il a travaillé aux États-Unis, au Japon, et on peut dire de lui que tout petit déjà, il voulait savoir comment ça marche.
Je suis très curieux de nature et très petit. Mes parents me rendent compte que je démontais tout, les montres inclus. Et ça, je pense que je le reste même à 65 ans.
Alors après, c'est devenu un petit peu plus compliqué que les montres. Il a passé plusieurs années sur la lumière, vous le disiez, et plus précisément pour expliquer comment la lumière parvient à passer par de petits trous nanométriques, un phénomène optique appelé poétiquement la transmission extraordinaire. Il travaille actuellement sur les fluctuations électromagnétiques qui peuvent accélérer des réactions chimiques.
Partout dans l'univers, il existe des fluctuations électromagnétiques comme un bruit de fond de l'univers. Et si on fait résonner ces fluctuations électromagnétiques avec des molécules, en les plaçant entre des miroirs, on peut modifier la réactivité chimique et changer la vitesse des réactions et le rendement de ces réactions. Ceci permet de diriger une réaction chimique vers un produit donné. Par exemple, dans la pratique, on peut améliorer le rendement de molécules de médicaments, des molécules de synthèse, et ainsi on peut diminuer les étapes de purification et donc réduire le coût de production de ces médicaments.
Un parcours à suivre aussi, puisqu'on le sait, cette médaille d'or du CNRS est parfois l'antichambre d'un prix Nobel.
Thomas Ebesen, donc médaille d'or du CNRS. Merci Daniel Messager. Les Américaines connaîtront leurs adversaires en finale du mondial de foot ce soir. La Suède ou les Pays-Bas, la deuxième demi-finale a lieu comme hier à 21h à Lyon. Il paraîtra après la rentrée littéraire de l'automne. Le nouveau roman de Patrick Modiano sera en librairie le 3 octobre. On connaît le titre, Encre sympathique, mais rien de l'histoire. On termine en musique avec l'une des invitées d'honneur du festival Série Série, qui se termine ce soir à Fontainebleau. La compositrice britannique Isobel Waller-Bridge, sœur de Phoebe, scénariste de séries à succès comme Fleabag, récemment adapté par Canal+, ou encore de Killing Eve, couronnée de plusieurs Golden Globes. Et c'est justement Isobel Alexandra Akun qui écrit la musique des séries de sa sœur, et vous l'avez rencontrée.
Ce qui frappe le plus dans la famille Waller-Bridge, c'est ce concentré de talent. À peine 35 et 33 ans, les deux sœurs ont déjà réussi à se tailler une réputation mondiale d'excellence. Isobel, l'aînée à la musique, Phoebe, à l'écriture de scénario. Et en plus, depuis 2016, elles travaillent ensemble.
On vit ensemble, on est vraiment les meilleurs amis du monde. Du coup, travailler aussi ensemble, c'était le rêve. Tout cela a un effet très positif sur nos carrières respectives. Tout se passe très bien, on est très direct l'une envers l'autre, très honnête. Du coup, tout va très vite.
Résultat, une musique qui colle parfaitement à l'esprit de Fleabag, qui raconte avec de l'humour et un vocabulaire très cru la vie d'une trentenaire à la dérive, un thème qu'Isobel Waller-Bridge a mis du temps à trouver.
On ne voulait pas avoir à s'excuser de quoi que ce soit, c'est juste une fille qui vit sa vie, qui se plante, mais elle est forte. Je me suis posé un moment et je me suis dit, il faudrait quelque chose comme du heavy metal, quelque chose de très punk, qui reflète sa personnalité. C'est une dure à cuire.
Dans la deuxième saison, qui vient juste d'être diffusée sur la BBC, Isobel est allée vers quelque chose de plus classique, avec des chœurs qui rappellent presque une messe. Normale, dans cette saison 2, sa sœur est irrésistiblement attirée par un prêtre, mais au fait, elle, Isobel, elle aime quoi comme série?
L'une des séries que je préfère, mais vraiment que j'adore, c'est 10%. La musique est top, je reconnaîtrai le générique entre mille. Il est si théâtral.
Le générique de 10%, très apprécié donc par les sœurs Waller-Bridge. Et puis, bravo à Caroline Gillet, productrice de Full Continental sur Inter, qui obtient le prix franco-allemand du journalisme en catégorie radio. Le temps.
La météo, avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Bonsoir Jean-Pierre Hameau.
Bonsoir Sébastien.
Il a fait encore chaud dans le sud aujourd'hui.
Effectivement, nous avons relevé 38 degrés à Nîmes au plus chaud de l'après-midi. Avec cette chaleur, les orages ont éclaté des Pyrénées au Massif central et jusque vers les Alpes du Sud. Attention, il sera encore fort ce soir, apportant localement d'importants cumuls de pluie, de la grêle et des rafales de vent. Demain, la journée sera estivale grâce à un excellent ensoleillement. Prévoyez encore des averses orageuses sur les différents reliefs, à l'exception des Vosges. Et puis vendredi sera la plus belle journée de la semaine, sous un ciel parfaitement bleu. Les températures vont s'envoler avec des maximales souvent proches des 30 degrés. Prévoyez 31 dans la capitale. On attend même un nouveau pic de chaleur dans le sud-ouest et en basse vallée du Rhône, avec des maximales proches de 37 ou 38 degrés.
Jean-Pierre Hameau, Météo France.